一十五。
Le seul quoi?
Il y a
ouais, ouais.
Le détail.
C'est exceptionnel.
Y a-t-il quelqu'un qui peut enregistrer sur la chaîne? On coupe.
Êtes-vous prêts? Je vais partir le bal. Bonsoir. En l'absence du maire et de la maire suppléante, le greffier doit faire une proposition pour nommer un président d'assemblée. Alors, je demande une proposition pour nommer un président de la séance de ce soir.
Oui, je propose Frédéric Campeau.
Non?
Non.
Toi, Frédéric Campeau, tu proposes. Est-ce qu'il y a vous demandez le vote? Y a-t-il quelqu'un qui demande le vote là-dessus? Non? Donc, c'est voté à l'unanimité. Alors, c'est M. Thibault Lusiter qui préside ce soir. À vous la parole.
Super. Bien, merci à tous d'être présents en si grand nombre ce soir. Hein. Ce soir, c'est une première, hein, un président nommé le soir même, donc à l'absence du maire et du comment.
C'est pour ça que nous sommes venus.
C'est ça. Oui, donc malgré les absents, je constate que le quorum est atteint et on déclare la séance ouverte à 19h pile. Donc, point 1, point 2, on n'a pas de PowerPoint, mais vous allez voir, ça va être assez court ce soir. Point 1, point 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, le conseil procède à l'adoption de l'ordre du jour, mais avec un changement, on va reporter le point 6.1. Donc, vous allez être... Et si on va pouvoir répondre aux questions quand même, si vous avez des questions un peu plus tard par rapport à ce point-là. Donc, en conséquence, l'adoption de la résolution est proposée par...
Par
Alexandre Morin, il est résolu d'accepter l'ordre du jour tel que présenté, avec la modification. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Personne. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point 1, point 3, période de questions spécifiques à l'ordre du jour. Personne. Parfait. Point 1, point 4, adoption du procès verbal de l'Assemblée ordinaire du lundi 9 février 2026, donc sur la proposition du conseiller
Alexandre Morin.
Il est résolu d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du conseil du 9 février 2026, tel que rédigé. Donc, est-ce que quelqu'un propose le vote? Non. C'est adopté alors à l'unanimité. Point 2, correspondance et dépôt et information. Nous n'avons rien reçu dans le dernier mois. Donc, on passe directement au point 3, finances et administration. Point 3.1, adoption des comptes à payer et à recevoir. Dans les comptes à payer, donc, considérant que les comptes à payer au 9 mars 2026 totalisent un montant de 65 973,24 cents et 27 243,51 cents pour les salaires sur la proposition de...
Je vais proposer Karine Charrette, Chuck Four.
Il est résolu que la liste des comptes à payer soit acceptée, que soient autorisés les paiements des comptes fournisseurs au 9 mars 2026 et que, selon les échéances prescrites, est-ce que quelqu'un appelle le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point 3.2, compte à recevoir, qui sont principalement les taxes. M. François Morneau, directeur général, dépose la liste des taxes à recevoir au 9 mars, qui totalise un montant de 1 718 821,39 cents.
peut-être qu'on peut rappeler que le premier versement, c'est cette semaine qui est prévu.
Le 11 mars.
Puis également, on avait proposé, puis c'est encore temps, sans prévaloir, un rabais de 3% si les gens désiraient payer tout d'un coup. Puis beaucoup, presque 50%, François mentionnait, là, qui sont prévalus de cette opportunité-là. Donc, ça permet aux gens d'économiser. Mais en même temps, ça permet aussi à la ville d'avoir à l'avance une plus grande partie, tu sais, des montants. Donc, on économise sur des frais d'intérêt, on rembourse la marge, etc. Donc, c'est une bonne pratique. Là, on est content là, de l'initiative. Là. Merci à l'administration d'avoir proposé puis aux conseillers, je pense, d'avoir décidé d'aller de l'avant. Là, c'est une bonne mesure.
Tout à fait. Merci. Donc, on passe le point 4, direction générale, aucun point.
Monsieur le Président, je peux quand même spécifier qu'on a des travaux d'urgence faits sur le chemin des sentiers. Un bris d'aqueduc quand même important. On perdait la moitié de notre aqueduc, là, de notre réserve d'eau. Alors, c'est réglé. Mais c'était un chemin à refaire. On sait que ça fait partie des travaux à refaire. On avait décidé de retarder ça d'un an compte tenu des taux d'intérêt qui ont augmenté. Vous savez, quand on fait ce genre de travaux-là, il faut avancer toutes les sommes pour les travaux, même si c'est subventionné. Alors, comme les taux d'intérêt sont passés de 1,8, on payait 1,8 et on est rendu autour de 5. On s'est dit, on va attendre un an. Donc, on avait pris la gageure de dire, ça va tenir le coup, mais regarde, ça a lâché. Alors, c'est réglé pour l'instant. On va peut-être repaver l'été prochain.
C'est
des tuyaux de fonte grise qui datent des années fin 60, 68, 70. Et la fonte grise, ça casse comme du verre. Alors, ça a été fait à une époque où on ne faisait pas les fondations d'une façon très conforme. Mais de toute façon, c'est l'âge aussi. Alors, avec le gel était descendu à cet endroit-là à 6 pieds dans le sol. Et compte tenu que c'est une fonte qui a tendance à fissurer, de l'eau, le gel... Ça casse comme du verre. Alors,
c'est la première fois, par contre, que tu savais que c'est en place. Tu fais des sages,
tu dois
les
sentir.
Oui. C'est la première fois que vous êtes en place de chez vous.
Oui. Vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes pas coupable.
Parce que là, ce que je voulais dire, c'est que ça arrive. Mais quand ça arrive à deux endroits différents, là, c'était toujours là où vous dites, c'est toujours là que ça arrivait. Mais ça commence à arriver à deux places dans la rue.
Mais compte tenu qu'on ne peut pas faire une réparation complète sur cette rue-là, parce qu'il faut faire l'avenue du Ruisseau et une partie de la rue du Manoir, et on en a pour plus d'un million. C'est 5 000 $ du mètre linéaire que ça coûte. Donc on attend d'avoir les sous pour le faire. C'est beau?
C'est bon. Donc là, on passe le point 6, ça va porter. Je ne sais pas ce que c'est 7 loisirs là, qu'on voulait dire.
Oui.
Point 7, ouais. Donc, Frédéric, je te laisse la parole.
Bon. Salut. Donc, pour la fête d'éthique, je voulais nommer tous les bénévoles et les employés qui ont participé à cette belle journée. Merci d'avoir participé, sinon aux autres citoyens et les enfants là, d'être venus en grand nombre. Fait, je vais vous nommer la liste des noms qui ont participé. Je vais essayer de mélanger entre employés et bénévoles. Louis-Philippe Barrette, Isabelle Coulombe, Isabelle Côté, Marie-Michel Parent, Mélissa Turmel, Alex Turmel, Joey Gagnon, Guy Rochette, Isabelle Grenier, Jean-Marc Drouin, le DJ Réjean Marquis, Jean-François Pelcha, Denise Coulombe, Jacinthe, je n'ai pas son nom de famille, je suis désolé. Karine Brisson et Monique. Ça, je n'ai pas votre nom de famille.
Boulin. Ça
fait du passé, la Boulin. Et j'ai les commanditaires. Ben, on peut une main d'applaudissement pour eux. Il y a aussi les commanditaires qui ont participé pour que cet événement soit. Qui a eu lieu. Donc, Desjardins, caisse de Charlebourg, Sylvain Lévesque, député de Chauveau, l'acupuncture Sylvain Lagatu, qui est un de nos citoyens, les capitales de Québec. Miville, climatisation, chauffage, CCAP câble, Joël Godin, député de Portneuf, Empire 47, Benoît Cloutier, Via Capital, Manoir du Lac-de-Lage, Magasin Général Arsenault, Bulk Born, Pascal Le Boulanger, la ville du Lac-de-Lage et le golfe de Stona. Donc, c'est eux qui nous ont aidés à amener les fonds. Puis, c'est ça. Fait que voilà, merci beaucoup.
Merci.
Merci, toi.
Oh, on pourrait peut-être ajouter aussi notre équipement qu'on a installé là, au vestiaire.
Oui, les skis puis les raquettes.
Ouais.
Fait que, si vous voulez, je pense que sur le site, là, il y a une façon d'aller le faire, de remplir le document. Fait que c'est accès à tout le monde ici, là, qui habite. Puis c'est une belle affaire que la ville a eu comme idée.
Qui a été fortement utilisée pendant la semaine de relâche.
Oui, vraiment.
Alors, donc, par les codes d'accès, on peut rentrer dans le vestiaire. Puis il y a un autre code d'accès pour atteindre les équipements. C'est des équipements qui sont gratuits en termes de prêt. On remplit un petit formulaire. Pas plus que ça. C'est pas plus compliqué que ça. On compte sur les gens pour les ramener. C'est la même chose pour la bibliothèque. Vous pouvez les emprunter. Il n'y a pas besoin de registre d'aucune façon. Si vous avez des livres à donner, on les prend. On va l'agrandir d'ailleurs, notre petite bibliothèque. Et déjà, on voit qu'il y a un engouement là, parce qu'avant, il était tout caché dans des casiers. C'était pas intéressant. Là. Fait que ça, on est très content d'avoir préparé ça.
Voilà.
Donc, merci Fred. On passe au point 8, sécurité contre les protections de l'incendie. On a comme point. Affaires nouvelles, moi j'avais mis ici briquette d'aqueduc, mais on en a parlé. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans les affaires nouvelles? Je ne crois pas. Intervention, point 10, intervention des membres. On n'a rien non plus. On vous avait dit ça allait être court, vous allez être déçus. Hein? point 11, période de questions par rapport à ce soir, au point de ce soir. C'est
quand même... J'ai une question. Pourquoi le maire et la pro-maire ne sont pas là?
Des raisons personnelles.
Ah, c'est facile.
Non, mais vraiment, tu sais, Véronique est en vacances, puis le maire avait quelque chose de personnel. Il n'y a rien de...
Oui, bonsoir, 78, du Verger. Pourquoi le 6.1 a été reporté? Peut-être que j'aurais dû le savoir.
OK, ben écoutez, on a, depuis deux ans, Immeuble des Mondes nous a fait, voulait faire un projet de lotissement de 54 tours. Il a fait une demande de lotissement. Et nous, on lui a refusé la demande de lotissement parce qu'il fallait que ce soit préalable à une entente entre un promoteur et la ville. Lotir, là, c'est la partie principale d'un développement. C'est-à-dire qu'il faut savoir c'est quoi les grandeurs de l'eau, l'orientation des rues. Alors nous, maintenant, on ne fait plus des lotissements pour un promoteur tant qu'il n'y a pas une entente entre le promoteur. Parce que dans le fond, c'est nous qui allons ramasser les rues et tout ce qui vient avec. OK? D'autre part, on a fait un moratoire sur la question de l'assainissement des eaux. Notre usine d'épuration des eaux usées est à sa limite. C'est pas en termes de volume, c'est en termes de capacité d'épurer l'eau. OK? On a d'ailleurs un rapport qui vient nous est arrivé pour nous suggérer des solutions à cet égard. Donc, on a un moratoire de deux ans qui ne permet pas aucun nouveau développement immobilier là, qui comporte plusieurs portes, tant qu'on n'a pas résolu cette question-là. Une fois qu'on va avoir résolu ce qu'il faut faire pour améliorer notre système de traitement des eaux usées, compte tenu qu'actuellement, ça suffit pour la population qu'on a, alors tout nouveau développement, bien, il va être imputé de payer une partie de ces ouvrages-là. OK? Fait qu'on est là-dedans. La société immobilière des Monts, a contesté notre décision de ne pas lui permettre le lotissement. Alors, il est allé ce qu'on appelle en pourvoi, en recours juridique, pour contester notre réglementation. Donc, on s'est défendu. Hein? Alors, nos avocats ont transigé avec la partie adverse et autres, puis on est venu à une... Dernièrement, on a eu une rencontre pour dire, bien, écoutez, nous, là, le lotissement pour nous, c'est le début d'un projet de développement. Donc, ça prend une entente. OK? Pour qui paye quoi? Puis, comment on veut ça? On ne veut pas un développement fait par quelqu'un qui veut densifier son truc. On veut quelque chose qui soit cohérent avec nos objectifs de développement. Donc, ils se sont rendus à l'évidence que, oui, notre règlement est à conforme. D'autre part, on exigeait que ça soit raccordé aux égouts et aqueducs. Et c'est une exigence qui vient de la communauté métropolitaine maintenant. Donc, sa prétention, c'est qu'il pouvait faire un développement sur installation septique. Donc là, il a reconnu qu'on avait, encore une fois, la justification pour exiger ce qu'on exigeait. Donc, on a préparé une entente, ce qu'on appelle une transaction et une quittance pour fermer le contentieux. Et dans ce dans cette quittance-là, ce qu'on reconnaît, c'est que on va avertir si jamais il y avait des modifications réglementaires qu'on apportait au niveau de la ville, d'ici 6 mois, on l'avait dirait. De toute façon, dès qu'il y a une modification réglementaire au niveau d'urbanisme, il faut qu'il y ait des consultations publiques et autres. Fait que c'est pas un engagement pour nous, c'est pas un gros problème. On va les tenir au courant du développement concernant les mises aux normes de nos installations au niveau des traitements des eaux usées. Puis par ailleurs, on lui donne un droit de faire un développement, pas un développement, mais une propriété, hein, de développer une propriété sur l'avenue, au bout de l'avenue du Pied des Pentes, à raccorder, parce qu'il y a déjà un accès là, à cet endroit-là, pour faire une résidence, uniquement une seule résidence. On est capable de prendre une résidence de plus là, avec l'usine, mais pas 54 lots. 54 lots, ça représente près de 20 % de la population actuelle.
Et ça aurait été fait où? Dans la
montagne? Non, ça serait au bout de la Pied des Pentes, sur le plateau à l'arrière. C'est une immense propriété là, qui sera vendue, un immense lot.
Vous parliez du 54 lots ou du lot unique?
Pardon?
Vous parliez du 54 lots ou du lot unique?
C'est où? Les
54
lots.
Les 54 lots, c'est... C'est le versant à côté de 1,47, c'est tout le versant côté ouest. C'est ça.
En fait, François, pour répondre à la question pourquoi on ne l'adopte pas ce soir, c'est parce que le document n'est pas final. Et on est rendu au dernier détail de l'entente. Mais la réponse là, à la question pourquoi on ne l'adopte pas ce soir, c'est que le document n'est pas final. Il restait à être signé peut-être des détails, mais en toute fin pratique, ce que François a expliqué, c'est ce qu'il va avoir dedans. Okay. On en a déjà discuté, nous, eux, tout le monde est d'accord. C'est juste qu'on n'a pas le document final. Donc, on ne peut pas l'adopter sans avoir un document qui est signé par les deux parties. Là, on ne l'a pas, ce document-là.
C'est ça.
C'est
ça.
Jean-Yves Perron, de Louis Sentier. Ces 54 lots-là, on sait qu'il y a deux terrains qui laissent au lac de l'Arbre disponibles. Alors, ces 54 lots-là sont sur le terrain du lac de l'Arbre. Ça appartient au village ou ça appartient à l'autre?
En fait, la ville n'est pas propriétaire d'aucun lot là, à développer. Ça appartient à Immeuble des Monts. Mm-hmm. OK? Alors, c'est la partie ouest, là, en contrebas des falaises. Oui, 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 oui. C'est sur le territoire de la ville. C'est pour ça qu'on a juridiction là-dessus. Puis, il reste aussi un terrain potentiel en haut aussi là, qui pourrait être développé. Donc, on est à la toute fin un peu de notre développement domiciliaire au lac de l'Arbre.
Là, présentement, ça ne veut pas dire que ce développement-là ne verra jamais le jour. C'est que présentement, le lotissement qu'ils nous ont demandé, ils n'ont pas répondu aux critères qu'on leur demande pour l'accorder. Ils peuvent revoir, puis faire une demande. Puis si la demande de lotissement répond aux exigences de notre réglementation, ben, on n'aura pas le choix de l'accorder. C'est pour ça que c'est important d'en discuter avant, savoir qu'est-ce qu'on veut, comment on veut le développer. Parce que quand le promoteur dépose une demande de lotissement, s'il répond à tous les critères, ben on a pas, c'est pas une décision politique. Hein. C'est oui, il répond, mais on lui donne pas d'autre choix.
Une question de...
Ben, c'est pas ma spécialité, mais il me semble que je vois des maisons dans le montagne difficilement se raccorder à un réseau d'aqueduc.
En fait, si l'accès était ici ou sur le pied des pentes, les services sont là, donc... c'est ça que le RCI dit, hein, François,
oui,
c'est
oui.
Que tout développement qui prend naissance à un endroit qui est raccordé, mais tu n'as pas le choix de venir te raccorder dessus. Tandis que si on faisait un développement, par exemple, à Stournam, au chemin des lacs, où il n'y a aucune infrastructure, mais là, ça devient pratiquement impossible de raccorder ça. Tandis que là, ici, si on veut développer derrière là, bien... L'infrastructure, elle passe ici devant, donc c'est possible d'être accordé parce qu'ils ont accès. Là. Ça, c'est des exigences de la CMQ, c'est la communauté métropolitaine de Québec.
Dans le domaine de la rue des Flots, au-delà du raccordement là, au réseau de l'égout, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose dans le bassin versant? Il me semble qu'on voulait limiter le développement résidentiel parce que ça avait beaucoup d'impact là, sur. Le lac, la rivière Saint-Charles, c'est pas le seul élément, me semble, à respecter. Peut-être au point de vue municipal, au point de vue, là, le RCI, tout ça, puis les bassins versants, me semble qu'en tout cas, dans l'actualité, on suivait ça. Donc,
en fait, veux-tu que je réponde? Le règlement de contrôle intérimaire, il y en a deux, là. Il y en a un de 2010 et 2019. En fait, il apporte des éléments de contrainte au niveau des pentes. Alors, tout ce qui est au-dessus de 25 % de pente n'est plus construisible. Tout ce qui est rocheux, tout ce qui est... tu sais, c'est plus des contraintes physiques, là. Le développement actuellement, il serait admissible là, sur 54 kilos, je ne sais pas, il faudrait l'étudier comme il faut. Mais quand les pentes sont en deçà de 25 %, puis 25 % c'est quand même important, là. Pensez que la côte Salaberry, c'est 18 %. OK? 25 %, là. Et ça prend un plateau, puis ça prend la capacité de creuser dans le roc pour ramener les conduites. Alors, à un moment donné, c'est aussi limitatif en matière de rentabilité d'un projet.
Bon, il n'y avait pas la rétention aussi, vu qu'on dégage moins d'arbres, tout ça, puis la rétention du passoir.
Oui, ça fait partie aussi le pourcentage de couvert végétal qui doit demeurer, la grandeur des lots. Il y a énormément de critères là, qui font que la construction est plus compliquée et beaucoup plus coûteuse. C'est pour ça que c'est important d'avoir un projet qui est bien ficelé parce qu'il va être dispendieux à développer. Mais ça, c'est l'enjeu du promoteur au final. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'à partir du moment où un projet respecte les critères, on l'autorise une fois qu'on a autorisé, qu'on a eu un protocole d'entente pour le lotissement.
Parce que nous, il y a des rues, tout ça, c'est un ruissellement.
Oui, mais il y a toutes sortes de façons de capter l'eau, puis recapter les sédiments, puis faire des bassins de rétention, etc. C'est sûr que ça prend un bon projet. Puis là, on ne dit pas qu'il n'y a pas un bon projet présentement, là, loin de là, c'est juste que là. Présentement, dans la situation actuelle, bien là, eux, ils contestaient notre réglementation, puis en discutant, ils se sont rendus compte que notre réglementation, finalement, n'est pas contestable sur les points qu'ils prétendaient. Donc, on arrête cette poursuite-là, je ne sais pas si c'est comme on l'appelle, puis ça va être à eux de faire leur devoir ou à nous, quand on sera prêt, de voir avec le développeur qu'est-ce qu'on veut faire de ces développements-là futurs.
Question là-bas.
J'ai
une petite question.
Il faut que tu nommes Mélissa.
Mélissa, hier, 30 de la Loire. Là, on parlait de ce projet-là, mais c'est plus général, mais je veux savoir quand un promoteur comme ça développe des rues, finalement, est-ce que c'est le promoteur qui paie pour ouvrir la rue, puis tout ça, puis c'est à partir du moment où les maisons sont rendues?
Dès qu'il est loti, on peut payer des taxes là, sur les lots et non sur un lot unique, sur toutes les lots. Okay. Évidemment, ce n'est pas les mêmes taxes que pour un terrain développé, mais dès qu'il est loti, on prête des taxes sur des terrains vacants qui sont prévus. Mais oui, c'est à la charge du promoteur de faire le développement, autant des rues que l'infrastructure, les lampadaires, l'aqueduc, les goûts, c'est aux frais du développeur de faire tout ça. Dans notre modèle, à nous, pas autre modèle, mais depuis plusieurs années, les villes n'ont pas la capacité financière de supporter ces développements-là. Des villes qui voudraient vraiment accueillir de la population en région, ça se fait, les villes acquièrent les terrains puis se développent eux-mêmes. Mais là, pour nous, pour l'instant, c'est pas une avenue qu'on a étudiée.
D'ailleurs, est-ce que je peux peut-être apporter un complément? Quand on parle d'une entente promoteur, c'est justement c'est d'exiger tout ce détail-là. On sait qu'on a besoin de bassins de rétention parce que notre système de drainage pluvial n'est pas suffisant. Donc, il faut retenir de l'eau pour qu'il puisse rentrer dans notre système. La même chose, mettre aux normes l'usine. Pour l'instant, elle fait notre job. Là. Mais si on veut avoir c'est des millions qu'il faut investir. Ouais. C'est pas aux citoyens à subventionner d'une certaine façon ce projet-là en payant pour augmenter la capacité de l'usine. Donc, l'entente entre promoteurs, c'est tout ça que ça définit. Le type de bâtiment qu'on veut avoir. C'est-tu un PIA, c'est un plan d'intégration architecturale qu'on veut. Puis en plus, ça comprend tous les règles qui sont assujetties par les gouvernements supérieurs, par la CMQ, par le gouvernement du Québec, parce qu'il y a des marais humides, il y a un marais humide dans ce coin-là, il y a des ruisseaux. Fait que c'est un vrai devis, là, un vrai... c'est pas rien, là. Fait que, tu sais, on peut plus permettre, là, comme ça se fait dans mon vieux temps, un promoteur achetait une terre forestière, faisait un lotissement, vendait un terrain, puis lui s'en allait, puis c'est la ville qui se ramassait avec chacun des propriétaires qui devait s'organiser avec les propriétaires pour respecter les règles. Et puis ça.
C'était là avant, là.
Bonjour. J'ai des cartes. J'ai parlé l'année dernière, ça fait déjà un an, la mort d'arbre sur le nouveau développement de la rue des cartes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a regardé ça? Le vieux piéton. Parce qu'on parle de ça, là. C'est pour ça que je vous en parle.
Pour un futur développement ou pour,
pour reboiser? Monsieur le Président, je peux peut-être répondre. Effectivement, dans le développement de la rue des Crans, il y avait une obligation pour respecter le règlement de contrôle intérimaire d'avoir un pourcentage d'arbres de replanter parce que tout avait été rasé à cause des coupes de roc. Au moment où je vous parle, on essaie de voir la possibilité d'avoir une subvention parce que ça pourrait être des arbres de la ville sur la propriété attenante. J'ai appris que même le fédéral subventionne la plantation d'arbres dans les milieux urbains pour contrer les îlots de chaleur, des choses comme ça. On est en train de regarder ça au niveau administratif, voir comment on proposera au conseil à ce moment-là peut-être une proposition d'ensemble pour soit que la ville investisse pour la plantation ou qu'on donne une facilité aux propriétaires pour le faire. Vous savez, il y a des villes maintenant qui ont des avantages fiscaux pour ceux qui plantent. Victoriaville, notamment. À contrario, ils peuvent même dire on va augmenter tes taxes si tu ne plantes pas. Fait que ça va dans les deux sens. Nous, ce n'est pas notre approche. Hein, vous comprenez que c'est pas là, mais effectivement, on sait qu'il faudra faire quelque chose pour reboiser la rue des Crans.
Ça fait déjà 14 ans.
Ça va pousser pareil.
Oui, mais c'est ça.
Une dernière question, je ne sais pas. Il y avait là,
derrière. D'accord. Oui. C'est, ouais. En fait, c'était une précision.
Oui,
Jean-Baptiste Beck, de la rue des Rochers. Donc, la précision, c'est ce que je comprends, c'est qu'un promoteur, quel qu'il soit, qu'on soit pour ou qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas, à partir du moment où il rencontre tous les règlements municipaux, PMRC et tout ça, on ne peut pas, comme municipalité, lui refuser son développement. S'il fait tous ses devoirs comme il faut. Donc c'est juste, je dis, parce que c'est pas un choix de la ville ou pas. À partir du moment où c'est ce que j'ai compris, parce que j'ai bien compris. Et puis l'autre question, c'était la propriété unique qui va être construite, là, qui est au-dessus de la rue des Monts.
Non, c'est au coin de la pied des Pentes et l'avenue du Rocher. Il y a un lot là, vacant. Juste à côté du gros ruisseau, qui donne accès à immense terrain en haut. Là. Okay. Il serait loti.
OK, donc c'est l'immeuble des Monts qui a racheté ce terrain.
En fait, ça appartient à l'immeuble des Monts. L'immeuble des Monts, considérez là, tout ce que vous voyez en arrière, ça appartient à l'immeuble des Monts.
OK,
haut,
d'accord,
là.
Je comprends. Parce qu'il y a un autre terrain à côté, d'accord.
Ouais.
Okay. C'est bon, c'est juste pour savoir exactement où ça fait.
Ouais.
Merci.
Vous avez le côté 115 d'écran? François, tu m'as parlé que Hydro-Québec allait élaguer tout le long des lignes dans nos fonds pauvres pour beaucoup. Donc ça, c'est quand même une bonne partie du couvert forestier, du couvert boisé qui va partir. Moi, j'habite sur des crans. L'eau de ruissellement des voisins depuis une nouvelle construction, nos cours sont vraiment plus pleines d'eau qu'à là. Si on enlève en plus cette bande-là, comment tu te sortis?
Ça dépend.
Ça va être important, là. Est-ce qu'on a un plan pour
contrecarrer? Bon, je peux répondre. J'ai rencontré le responsable de ça. L'année dernière, Hydro-Québec nous annonçait un plan assez costaud. Ils ont énormément de retard au niveau provincial dans la maintenance des emprises hydroélectriques, ce qui amenait énormément de pannes électriques. Ils se sont ravisés parce qu'il y a des quartiers, entre autres à Stoneham, qui ont fusé carrément le plan d'Hydro-Québec. Il y a mieux vivre avec les risques de panne ou autre. Donc, ils ont atténué les choses. Alors, tout ce qui est réseau primaire, là, le gros réseau, le gros fil qui rentre, là, vous en avez le long de la grande ligne, vous avez vu même près là, tout près en arrière de chez Pascal, là, juste à l'intersection devant la prise d'eau de Stoneham. Là, ils mettent des nouveaux poteaux en béton ou en acier, puis là, ils mettent ça large, là, OK? Parce que c'est le gros cadre qui rentre. Quand ils rentrent dans des quartiers, là, ils réduisent ça au strict nécessaire. Ils ont réduit leurs ambitions à cet égard-là. Alors, c'est pas si pire que ça pour nous. Moi, je m'attendais là, vraiment à quelque chose de plus costaud. Mais ils ne feront pas les légages comme ils ont fait au cours des dernières années où ils coupent quelques branches, puis deux ans après, c'est quasiment pire parce que ça s'est multiplié. Ils vont quand même faire un ménage, mais pas 5 mètres de part et d'autre de la ligne. Là. Ils vont faire quelque chose là, de correct. Ils ont déjà tout répertorié les arbres, sont tous géo-référencés. C'est un assez bon travail qu'ils ont fait.
Ils
vont asphalter en dessous. Hein? Ils vont asphalter en dessous. Pas vraiment, là. Par contre, tous les arbres, ils les laissent à terre. Ça, ils ramassent rien. OK? Donc là, comme ville, on est peut-être obligé, dans certains cas, d'aller faire un petit ménage.
Et est-ce
qu'on
s'éclaire?
Ça va être plus à l'automne prochain. Ils ont des priorités. Vous savez, on est au bout d'un réseau. Hein? Nous, le réseau, ça part du lac Saint-Charles, notre de Laurentides. On pensait que ça venait de Titonam, mais non. Ça part de... Donc, il commence à l'autre bout, puis il remonte jusqu'à la tête. C'est nous sur la tête.
Il a commencé dans l'autoroute.
Oui, bien, regardez sa grande ligne, là, des places, là, ils ont fait, là, c'est ça, c'est du 10 mètres, là. Ils ont fait avec une pelle mécanique, avec un rasoir à forêt, là, puis ils tracent ça. À des places, ils ont fait le gros mélange. Oui. C'est tout marqué, oui. Où ils font des choses plus chirurgicales, là, c'est tout marqué. Ils ont des repères, des rubans. Fait qu'ils font quand même une assez belle job. Nous, ça va être surtout à l'entrée sur l'avenue des Monts, où ça va être un peu plus large. Notre principale entrée est là. Puis, les lots, la ligne en arrière-lot, là, comme sur des Monts, et entre l'avenue des. Ouais, il y a le ménage à faire là aussi. Là. Mais c'est moins pire qu'on nous avait annoncé. Mais pour compenser la perte du couvert, ils donnent des subventions pour des projets de mise en valeur, des choses comme ça. Donc, on va se prévaloir de ça.
Est-ce qu'on peut anticiper aussi avoir moins de panne de couvert?
J'espère. Pour vous dire, cette semaine, on anticipe une tempête. Là.
Oui.
Fait que là, on a loué une génératrice au cas pour la station de pompage. Mais effectivement, il y avait un retard de plus de 20 ans. Au Québec, nous l'ont dit, là, ils avaient coupé dans ces services-là. Puis là, ben, il y a beaucoup de problèmes.
Donc, c'est la même question. Ouais, la dernière. C'est bon.
Ben, moi, c'est concernant, je vais poursuivre sur l'entente pour le développement résidentiel. Je voulais savoir si en parallèle, on suit quand même, je pense que oui, là, la qualité de l'eau du lac. Cet été, on a eu quand même un avertissement au double d'algues bleues, je crois.
Ouais.
Puis je me dis, oui, peut-être qu'un promoteur peut respecter la réglementation, mais quand même, est-ce qu'en parallèle, on suit la qualité de l'eau du lac? Puis on sait que le développement résidentiel, ça ne peut pas avoir zéro impact. Puis déjà, je crois que le lac, c'est assez fragile. Au lac Saint-Charles, c'est le cas. C'est le lac de l'âge, nous, on est correct dans tout ça. Si on a des avertissements déjà d'algues bleues, est-ce que. Parce que moi, je me questionne là, puis je trouve que ce serait important de mettre ça en parallèle, puis que ce ne soit pas juste réglementaire comme vérification, mais beaucoup plus d'ensemble par rapport à l'environnement qu'on a ici au lac. Ça s'appelle lac de l'âge. J'espère qu'un jour, ça ne s'appellera pas juste de l'âge. C'est ça. Moi, je trouve que ça serait important de regarder ça. En perspective.
OK. Voulez-vous que je réponde à des éléments de question? En fait, vous savez, on fait des diagnoses régulièrement. En fait, il y a Giro qui est fond. On a un niveau de surveillance quand même au niveau de la végétation, au niveau des algues bleues. Là. De toute façon, les algues bleues, dites-vous bien, là, que même les lacs parfaits en eau de temps en temps, en fonction de la température, en fonction de différents... les cyanobactéries, c'est la forme la forme de vie primitive la plus vieille sur la Terre. Il y en a partout. Donc, ça prend des conditions particulières de température, de l'eau chaude, de l'eau peu profonde, une forte pluie, puis c'est bingo. Là, ça, on peut en avoir partout. Par contre, on les surveille. Regardez là, l'avis qu'on a fait l'été passé. Là, tout de suite, quand on a un avis, on a la chance d'avoir des limnologues chez Agiro qui ont des équipements là, qui peuvent vérifier très rapidement la nature même de la cyanobactérie, si elle est dangereuse ou pas. On a une vingtaine de variétés de cyanobactéries dans notre environnement. Puis il y en a qui sont vraiment toxiques, il y en a qui ne le sont pas. Donc, des fois, on ne veut pas alerter pour rien. Au niveau de la question du développement... c'est clair qu'on est beaucoup plus alerté qu'on l'était à l'époque. Okay? C'est pour ça qu'il y a plusieurs études actuellement en cours sur voir comment on peut contrer le ruissellement, comment on peut l'atténuer, le ruissellement. Il y a des projets avec la Ville de Québec, entre autres, sur la mise en place d'étangs. Parce que là, on s'aperçoit qu'on a mis des cellules de biorétention. Vous avez vu, là, il y en a qui appellent ça de la fardoche, là. Ça a quand même coûté 200 000 $ nos cellules de biorétention. En fait, c'était les premières expériences qu'on fait. On s'aperçoit qu'elles ne sont pas suffisantes, ces cellules-là. Comme dans le parc, il va falloir l'améliorer, notre cellule de biorétention. Elle est trop petite. Puis, certaines études démontrent qu'il faut faire des étangs. C'est-à-dire que les sédiments qui se ramassent au lac sont tellement fins qu'ils ne sont pas capables de se décanter dans un fossé ou dans une cellule de biorétention. Ça prend un étang assez avec une certaine lame d'eau pour qu'il y ait une décantation. Et il est prévu d'en faire deux ou trois en arrière du stationnement là-bas. Sauf que c'est sur des terrains privés. Donc, il faut que les propriétaires privés contribuent d'une certaine façon à ces projets-là. Alors, vous voyez, on est un peu coincé. Puis l'autre affaire, c'est que tout l'autre drainage de notre vallée ici, là, c'est l'eau qui vient d'en haut, là, dans l'arrière, de ce côté-là, ça passe par une conduite souterraine qui passe dans le stationnement, qui passe sous le manoir, sur le terrain du manoir, qui s'en va dans le lac. Ça appartient tout au manoir. Alors, on est en discussion avec le manoir pour dire, écoutez, donnez-nous une servitude, puis nous, on va revoir ce projet de drainage-là. Parce qu'on a un gros, ce qu'on appelle un storm center, en fait, c'est un intercepteur qui coûte 25 pieds de profond, là. C'est un immense tuyau, puis il n'est pas raccordé. Si on pouvait raccorder le pluvial qui traverse les stationnements, puis tomber dans l'intercepteur, ça serait déjà une bonne affaire à faire. Sauf qu'il faut avoir des discussions avec les promoteurs d'en arrière, le manoir, pour avoir ces servitudes-là. Il y a des subventions disponibles. Ça fait un an que je travaille sur ce projet-là, mais il y a beaucoup de joueurs, puis ça fait partie aussi des enjeux qu'on a avec Empire 47, parce que c'est ces terrains-là qu'il faut aller revoir. Donc, il faut le voir comme un tout. C'est tellement petit le lac de l'âge que... Il faut avoir une vision d'ensemble avant d'intervenir. On ne peut pas faire des choses à la pièce sans qu'on n'ait pas toutes les pièces du puzzle. Il y a un projet de restauration aussi sur le bord du lac avec le manoir. Une subvention qui attend. On travaille là-dessus aussi.
Restauration de l'eau, est-ce que la salle du nord ou est-ce que c'est détériore actuellement?
Actuellement, ce qui détériore le lac, ce n'est pas tant les sédiments que les éléments nutritifs qui sont charriés. C'est-à-dire que quand il y a des grosses pluies, c'est la partie, le phosphore, l'azote qui est dans les sols naturels qui finalement finissent par se ramasser dans le lac. Quand on a une coloration brune sur le lac après une grosse pluie, c'est pas nécessairement des sédiments, c'est plus des matériaux qu'on dit colloïdales. C'est tellement fin que ça ne se décante pas facilement, mais c'est chargé d'éléments nutritifs. C'est ça qui est le problème. Donc la forêt, là, on ne l'engraisse pas, on ne met pas d'engrais dans la forêt. C'est généreux, la forêt. Donc, ça est capable de générer des éléments nutritifs. Mais quand on la déboire, cette forêt, quand on favorise du ruissellement, c'est les éléments nutritifs-là qui se sont libérés des sols, qui sont transportés par l'eau, qui enrichit le lac. Donc, c'est ça qu'on veut contrer. C'est un beau défi. Les moyens sont là. Mais... Ça répond-tu?
Oui, parfait. Oui, merci.
On a des projets. Éventuellement, on pourrait faire une belle présentation en dehors d'une séance de conseil, une présentation sur les études en cours. Il y en a plusieurs. Là, on commence à avoir le portrait. On pourrait faire une présentation là-dessus.
Merci.
Dernière question.
Ça n'a pas dans le sujet. Daniel Breton, toi, des villas. À la dernière rencontre concernant Mme Mélissa, Isabelle, M. Louis-Philippe, il avait parlé par rapport au loisir. Y a-t-il quelque chose de développé par rapport à ça? Y a-t-il.
On n'a pas. Ben, veux-tu.
Oui. oui, en fait, il y a des discussions à l'interne. Là. En fait, il y avait peut-être une incompréhension. Vous savez, la ville avait ses habitudes. La ville, c'est l'administration, avait ses habitudes. Avec le nouveau conseil, ben, il y a des partages d'informations à avoir puis comprendre comment fonctionne la ville. Alors, on devait avoir une rencontre là, récemment pour en discuter un peu plus profondément. De donner une nomination à Mélissa ou à Isabelle ou à Louis-Philippe, ça n'amenait pas nécessairement des avantages pécuniers. C'était plus pour une reconnaissance lorsque nos gens vont dans des rencontres intermunicipales pour parler de loisirs. Il faut être délégué quand on va représenter une ville. Donc, on avait à statuer sur cette question-là, comment on interprétait ces choses-là. On n'a pas eu encore la chance, là, depuis un mois, là, il s'est passé plein d'affaires là, qu'on n'a pas eu le temps de discuter, mais ça va être à l'heure du jour du mois d'avril, ça va être une grosse rencontre, parce qu'il y a plusieurs points là, qu'il va falloir libérer. Là. Mais c'est, il n'y a pas vraiment de problématique à cet égard-là. Okay?
Donc, point 12, levée de l'Assemblée.
Je propose.
Sur la proposition d'Alexandre Morin, donc, de proposer de lever la présente Assemblée à 19h38. Merci beaucoup, tout le monde.
Merci tout le monde.
C'est très agréable à voir.